Bonjour à tous. Que notre Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Il le mérite. Nous ne le faisons pas comme une habitude, mais nous le faisons parce qu'il le mérite vraiment. Il en est digne. Si Amen. Si nous devions véritablement compter ses bienfaits, nous passerons des heures et des heures. Amen. Et le Seigneur nous prépare un temps où nous serons ensemble avec lui dans sa présence pour l'éternité. Amen. J'aimerais d'abord remercier le Seigneur qui nous permet d'être là, qui nous fortifie jour après jour et qui nous fait la grâce d'être là pour apporter sa parole. Et j'aimerais aussi remercier notre pasteur, le pasteur Joseph Bondo, là où il est, pour la confiance qu'il nous témoigne. Et j'aimerais aussi vous remercier, vous qui persévérez, qui venez dimanche après dimanche pour écouter la parole, que le Seigneur se souvienne de chacun de vous. Amen. Nous prions. Père éternel, béni soit ton nom. Glorieux est ton nom. Puissant est ton nom. Merci parce que tu nous fais du bien dans ta présence. Mais nous sommes là aussi pour que tu nous parles. À cette heure, nous nous disposons à toi. Parle à chaque heure et fortifie-nous. Oui, nous avons besoin de cette énergie que communique ta parole pour aller de l'avant. Ta parole est notre carburant, ta parole est notre essentiel, ta parole est notre nourriture sans laquelle nous séchons, sans laquelle nous périssons. Bénis ces moments, Père, au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Je nous inviterai à lire deux passages avant que je n'annonce les thèmes, deux passages courts. Le premier, c'est l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1. Donc, Colossiens 1, verset 25 à 27. Et le second, ce sera dans l'épître de Paul aux Éphésiens, du verset 16 à 18. Et ensuite, nous ferons d'autres lectures. Je lis dans l'Épître aux Colossiens. C'est d'elle, c'est-à-dire c'est de l'Église, le nom auquel l'adjectif, le sujet et le pronom « elle » se rapporte, c'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Je lis dans Éphésiens chapitre 1, verset 16, c'est la prière de Paul. « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. » Donc le thème, je le tire du premier passage. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'espérance est une notion, une réalité propre à la vie humaine. Plusieurs livres en parlent, la Bible parle beaucoup d'espérance et beaucoup. Et dit que l'arbre n'a pas d'espérance, l'animal n'a pas d'espérance. C'est propre à la vie humaine. C'est le seul bien qui soit commun à tous les hommes. Tous les hommes possèdent une espérance, quelle qu'il soit. Tous les hommes possèdent une espérance. Et cette espérance fait croire à l'homme qu'un jour, tout ira mieux. Tout ira pour le mieux. Un jour, ça sera mieux qu'aujourd'hui. Mais quel que soit l'objet sur lequel on fonde ses espérances, presque toute l'humanité a cette espérance-là. Un jour, tout ira mieux. Tout ira mieux. C'est une sorte de nécessité psychologique. Hein, c'est dans l'âme de l'homme. C'est une nécessité psychologique indispensable à la vie et à son équilibre intérieur. Indispensable à la vie humaine et à l'équilibre intérieur. En fait, cette espérance répond à la question du caractère incomplet de l'homme, du caractère vulnérable de l'homme, du caractère fini et faillible de l'homme. Donc, il se donne quand même cette espérance-là, parce qu'il reconnaît qu'il n'est pas puissant, fort, il n'est pas, disons, éternel, il est quelque part limité. Il n'est pas illimité, voulais-je dire. Donc, pour répondre à ce fait-là, l'homme se nourrit des espérances. Se nourrit des espérances. L'espérance d'une vie meilleure, d'un futur meilleur, voilà ce que l'homme, ce qui nourrit l'âme de l'homme. Et quelqu'un a dit, l'espérance est l'une des plus précieuses réactions devant les difficultés de la vie. Effectivement, nous le voyons, chaque fois qu'il y a des temps difficiles, que ce soit en individuel, en collectif, en communauté, tout le monde se tourne vers au moins un sujet d'espérance. Et le dimanche dernier, notre pasteur nous a parlé de Jonas, lorsque la tempête a surpris tout ce bateau dans lequel Jonas était, et tout le monde s'est retourné, chacun vers son Dieu. Chacun s'est retourné. Voilà l'espérance. C'est une réaction devant la souffrance humaine. Une réaction. Elle permet elle a une sorte d'effet stimulant qui encourage face à l'épreuve. Elle a un effet, je vais prendre un terme un peu médical, antalgique. C'est-à-dire qu'elle atténue la douleur. L'homme arrive à surpasser la douleur présente en espérant en quelque chose. Et c'est d'ailleurs avec raison que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir. » Amen. Donc l'espérance est quelque chose de précieux, de précieux. Mais au-delà de toutes ces réalités sur l'espérance, la Bible nous donne une affirmation sans faille, sans hésitation, exclusive. Sans Dieu, il n'y a pas d'espérance. Il n'y a pas d'espérance. En dehors de Christ, il n'y a pas d'espérance véritable. En dehors de Christ, les espérances sont chimériques. comme du vent. Ce sont des espérances vaines. Et laissez-moi vous dire qu'en premier point, la majorité des hommes ou des personnes, hommes et femmes, sur la terre, vivent sans espérance ou avec une espérance trompeuse. La majorité des hommes. Nous sommes à 7 milliards, entendons, je ne sais pas, 8 milliards, nous avons franchi la barre il y a quelques mois. La majorité des hommes, dans ces milliards qui peuplent l'humanité, vivent sans espérance véritable ou avec des fausses espérances. Éphésiens chapitre 2 nous parle de notre réalité. Dans cette catégorie des personnes qui vivent sans espérance, je relève deux types. Les premières, ce sont les personnes sans Christ, dont je vais parler dans Éphésiens 2, et ensuite je reviendrai sur des personnes qui se disent chrétiennes, mais qui en vérité n'ont pas d'espérance. Les personnes sans Christ, Éphésiens 2, chapitre 10, c'était la condition dans laquelle nous étions. La Bible dit, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Sans espérance et sans Dieu. Nous étions éloignés. Le verset 13 dit, mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés. Donc je garde d'abord cet aspect-là. Sans Dieu, il n'y a pas d'espérance. Il n'y a que philosophie, il n'y a que chimère, il n'y a que mensonge venu des hommes, mais réalité venue prince des ténèbres, lui qui suscite toutes sortes de philosophies pour égarer l'homme de son créateur, pour égarer l'homme du Dieu vivant. Toutes sortes de philosophies où Dieu n'y est pas, ce sont des philosophies et des doctrines mensongères, des doctrines de démons. Et aujourd'hui, la philosophie qui guide presque tous les secteurs de la vie, c'est la philosophie humaniste qui croit en l'homme, mais pas en Dieu, puisqu'elle renie le créateur, le créationnisme, mais l'homme a subi des évolutions à partir de tout ce que vous savez, tétards, primates, et jusqu'à prendre la forme que nous avons. Voilà toutes ces philosophies mensongères qui sont enseignées dans les écoles et qui, finalement, continuent non seulement dans le domaine éducationnel, dans l'économie, où on croit que l'homme peut maîtriser tous les paramètres, l'homme finira par arranger et répondre aux situations, l'homme finira par arriver à une sorte de redistribution équitable des richesses, l'homme finira par subjuguer toutes les maladies, ça c'est la médecine. Cette philosophie humaniste est entrée dans tous les domaines. Et c'est ça qui guide pratiquement tout notre univers. Comme je l'ai dit une fois, j'ai parlé avec un politicien célèbre une fois, il me dit, non, moi je crois en l'homme. Je crois en l'homme. Je suis humaniste. Je crois en l'homme. Moi je lui ai dit, la Bible nous dit que le cœur de l'homme est mauvais et trompeur par-dessus tout. Alléluia. Que l'homme est limité. Malheureusement, ce type d'enseignement, parfois entre sournoisement dans les églises, et pousse ceux qui les suivent et les pratiquent à se sentir comme des petits dieux, des gens à qui tout est permis, capables de tout, indépendants, on peut faire tout ce qu'on veut, personne ne nous contrôle. Si vous n'êtes pas d'accord, vous partez, vous quittez, je peux faire comme je veux. Voilà comment ce qu'est l'état du monde et toutes ces philosophies mensongères donnent aux gens des fausses espérances. Pourquoi ? Nous le vivons. Il suffit qu'il y ait un homme, un larron, un dictateur qui s'élève, ben il fait tomber tous les espoirs des hommes comme un château de cartes. Tout est renversé. Il suffit que quelqu'un s'élève, il appuie comme une sorte de bouton, bien sûr par des actions, et tout ce que l'homme construisait vole en fumée. Il faut tout recommencer. Comme ce chant qu'on apprenait autrefois à l'école du dimanche, si tu veux bâtir une maison, ne construis pas sur du sable. Il faut mieux construire sur un rocher. Sinon, un jour, tu devras tout recommencer. Et nous sommes dans une époque où, en réalité, quelles que soient les avancées technologiques, nous vivons une sorte de perpétuel recommencement. Parce que le cœur de l'homme, sans le Seigneur, reste mauvais. Restez mauvais. Il n'y a que Dieu qui peut changer. Donc toutes les espérances prônées par les philosophies humaines sont chimériques, mensongères. Tous ceux qui pensent qu'il faut manger et boire comme demain, car demain nous mourrons, les épicuriens, ce n'est que du mensonge. Toutes sortes de gens qui croient à l'extrême qu'il faut souffrir, se faire souffrir pour espérer atteindre quelque chose. Que des chimères. Que des chimères. Et le diable, voilà ce qu'il pousse dans le cœur des hommes comme mensonge, les amener à croire qu'un jour après leur mort, ils pourront ressusciter, se réincarner en des êtres un peu meilleurs, soit en des plantes, redevenir une belle fleur, ou un arbre, ou encore un animal. Voilà toutes ces philosophies occultes. Et le monde aime ça, est nourri de ces choses, de toutes ces sortes de mensonges. Sans espérance, vaines espérances, sans Dieu, puisque les hommes ont rejeté le Créateur, la majorité, pour ne pas dire l'extrême majorité des personnes vivant sur la terre n'ont pas d'espérance, ou ont des espérances trompeuses. C'est le diable qui nourrit ces espérances parce qu'il veut attirer les hommes vers lui. Nous ne le répéterons jamais assez. L'enfer n'a pas été créé pour l'homme. L'enfer a été créé pour le diable et ses anges rebelles. Mais les hommes iront très très nombreux parce qu'ils auront choisi de rejeter le Créateur. Ah oui. La deuxième catégorie des personnes qui sont sans espérance véritable ou qui ont des fausses espérances, c'est aussi une catégorie très nombreuse. Ce sont des personnes qui se disent chrétiens, chrétiennes, fréquentent les églises, exercent des activités, ont parfois même des responsabilités, mais qui n'ont qu'une vision temporelle de la foi chrétienne. C'est-à-dire, tout pour eux est tourné sur le bonheur matériel. Et quelqu'un a dit, à juste raison, dans les églises, on parle plus de bonheur que de sainteté. On parle plus de bonheur que de sainteté. Malheureusement. Beaucoup de personnes qui fréquentent les églises n'ont pas une espérance véritable, ou du moins ont une espérance tournée essentiellement vers le matériel, vers les choses de la terre, le mieux-être, le paraître, la vie, tout ce qui se passe ici-bas, pas plus, pas plus. Et à cause de cela, bon, elles sont prêtes à faire tous les coups bas pour être heureuses ici sur la terre, pour s'acquérir toutes sortes de biens. On est prêt à faire tous les coups bas. On est prêt à nuire. On est prêt à corrompre. On est prêt à tricher, ne fût-ce que pour expérimenter un bonheur ici, parce que oui, tout se limitera ici. Là-bas, on ne sait pas. Voilà certains chrétiens. Et pour eux, l'essentiel, c'est qu'on les voit. Et puis un jour, peut-être qu'ils vont témoigner. Voilà, le Seigneur a fait ceci. Pourvu que ce soit, Dieu bénit, ça c'est vrai. Dieu bénit et il bénit véritablement. Quand le Seigneur bénit, je dirais même comme quelqu'un, le Seigneur l'a visité, il avait même dit, Seigneur, pense un peu aux autres, parce que j'ai l'impression d'être comblé. Quand Dieu bénit, il bénit véritablement. Mais il bénit pour un but. Et il bénit pour sa gloire. Il ne bénit pas en des autres. Des chrétiens qui n'ont pas d'espérance, puisqu'ils n'ont pas d'espérance, bon, ils sont limités aux choses de la terre, ils vivent et bon, ils peuvent vivre dans le péché. Ils peuvent encore battre leurs épouses. Très sérieusement, oui. Ils peuvent encore battre leurs épouses, terroriser leurs enfants, battre leurs enfants. Parce que bon, on vit comme on veut, on vit dans l'infidélité totale, dans le désordre total. On peut encore puiser dans les caisses. Oui, parce que tout se limite ici, il faut que je sois heureux, il faut que j'assouvisse toutes mes passions. Donc je dois tout faire. Il ne faut pas que quelqu'un m'empêche. Je peux chercher le bonheur au détriment de la souffrance des autres. Ça, c'est la dynamique qui habite les chrétiens charnels. Personne ne me voit. Je peux m'amuser comme je veux. Et venir dimanche. Je peux, oui, venir à l'église, mais être très attaché aux coutumes. Aux coutumes, oui, l'église c'est bien, mais moi c'est les coutumes de nos ancêtres. Coutumes, nous dans notre coin, voilà, voilà, voilà. Les chrétiens qui n'ont qu'une vision terrestre. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. 1 Corinthiens 15, verset 19. C'est un chapitre qui parle de la résurrection des corps. J'y reviendrai. C'est un des points fondamentaux de notre espérance chrétienne. L'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens de Corinthe. Il ne s'adresse pas aux païens. Il s'adresse aux chrétiens de Corinthe. Il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de... Si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Oui, beaucoup se disent chrétiens, mais ils ressemblent au peuple de Judas. Jérémie chapitre 7, à partir du verset 3, je vais lire un épisode de la vie du peuple de Judas qui pensait que parce que le temple est là, l'arche est là, il y a beaucoup, les signes sont là, les sacrificateurs sont là, ils pouvaient pécher comme ils voulaient. Or, Jérémie était déjà chargé de leur annoncer la déportation à cause de leur péché. Ils iraient en captivité. Écoutez ce que le Seigneur dit par Jérémie à ce peuple d'Israël. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. L'histoire nous montre qu'ils n'ont pas réformé leurs voies, et Dieu les avait chassés pour un temps. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant « C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel ». Le temple de l'Éternel, c'est comme quelqu'un qui vivrait comme il veut, de manière dissolue, désordonnée. Et puis dit, je prie à la borne, je prie à la borne, à la borne. Vous ne voyez pas quand on passe les cultes à la télé, en général on me voit, hein, vu ma position là, on me voit. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, y a-t-il quelqu'un qui opprime une veuve ici aujourd'hui, qui opprime un orphelin ou un étranger? Si vous ne répandez pas en ces lieux le sang innocent et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité. 8. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses. Voilà. Les gens se livrent à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Ça, c'est le peuple de Dieu. Il parlait à son peuple. Bien-aimés. Faisons attention. Alléluia. Faisons attention de nous livrer à des espérances trompeuses ou de somnoler dans une ignorance qui nous attache simplement aux choses de la terre. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13, je reviendrai. L'apôtre Paul dit, au sujet de ceux qui dorment, d'abord, il faut savoir que les morts en Christ dorment. Il dit, pour ceux qui dorment, nous ne devons pas être dans l'ignorance. Il attire l'attention du peuple ou de l'église, des Thessaloniciens, pour qu'ils ne soient pas ignorants de choses qui viendront après. Alléluia. L'espérance concerne des choses futures, des choses invisibles, des choses qui viendront après. C'est ça l'espérance. Romains au chapitre 8, verset à partir de 24 et 25 dit, ce qu'on espère, ce qu'on voit, on ne l'espère plus. Alléluia. Oui, nous sommes encore ici sur la terre. Mais étant sur la terre, ayant nos jambes sur la terre, ayant nos cœurs et nos têtes branchées vers les ciels. Alléluia. Ayant nos cœurs et nos têtes branchées vers les ciels, notre patrie céleste. Avant de parler de cette espérance glorieuse que Christ nous réserve, Christ, voyons d'abord Christ lui-même, Jésus-Christ, le sujet de notre espérance. C'est lui le sujet de notre espérance. Qui est-il pour nous? Qui est Jésus-Christ pour nous? Et là, j'aimerais retourner dans le passage. On peut beaucoup parler du Seigneur. On peut beaucoup parler. Toute la Bible en parle, de la Genèse à l'Apocalypse. Mais je vais rester dans le contexte de Colossiens chapitre 1, à partir du verset 13, je vais même prendre verset 12 pour une phrase complète, je vais lire juste un paragraphe qui nous dépeint Christ. L'apôtre Paul n'avait pas fondé lui-même l'église à Colosse. Il y a parmi ses disciples, lorsqu'il était dans d'autres contrées. On parle probablement dans Éphèse, lorsqu'il était à l'école de Tyrannus. Et les disciples, il a prêché, toute la contrée a pris connaissance de l'évangile parce que les gens venaient là où il était. Beaucoup de miracles se passaient. Dans Actes 19, on en parle. Là, on donnait même les gens appliquaient les mouchoirs sur l'apôtre Paul et ils étaient guéris. L'apôtre Paul, beaucoup d'autres disciples sont allés même commencer des églises. Et on parle d'Épaphras qui était le responsable ou l'un des responsables de cette église. Alors l'apôtre Paul va leur parler du Jésus que lui, il enseignait. Il va leur adresser cette lettre. Il dit, c'est vrai, il n'est pas encore arrivé là. Il y a d'autres qui n'ont pas vu encore mon visage. Mais je vous écris. Et il dépeint Christ. Rendez grâce, chapitre 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? L'apôtre Paul décrit son Seigneur au verset 13 comme celui qui l'a délivré de la puissance des ténèbres. Nous étions dans les ténèbres. Sans Christ, on est dans les ténèbres, dans l'obscurantisme. Comme je l'ai mentionné, sans espérance, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Jésus-Christ est le roi du royaume. Alléluia. Êtes-vous véritablement un des sujets de Jésus-Christ? Êtes-vous véritablement, votre vie témoigne que vous êtes un des sujets du roi du royaume et que Jésus-Christ, ce roi du royaume, est le sujet de votre espérance? Verset 14. En Jésus, nous avons la rédemption, nous avons été rachetés. Nous étions esclaves du péché, vendus. Mais à cause du sang qu'il a été versé, nous avons été rachetés, libérés. Les chaînes sont tombées. Je n'ai plus rien à voir avec l'esclavage du péché. Toutes les chaînes sont tombées. Je peux marcher libre. Le péché n'a plus d'emprise sur moi. Le diable n'a plus d'emprise. Nous avons la rémission, le pardon. Il a pardonné, il a effacé. Verset 15. Il est l'image du Dieu invisible. Ce Dieu que l'on ne pouvait pas voir dans l'Ancien Testament, Jésus l'a révélé. Jean 1, 12 dit, personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père l'a fait connaître, l'a manifesté, l'a révélé. Ce Dieu-là que l'on ne peut voir et vivre, Jésus l'a révélé. C'est lui le sujet de notre espérance. Le premier-né de la création. Cela ne veut pas dire qu'il a été créé en premier, et ensuite Dieu a commencé à créer autre chose. Non, ça veut dire qu'il a préséance, il a prééminence, il a la suprématie sur tout ce qui existe. Et du reste, les passages qui suivent, nous l'avons lu, vont nous montrer que c'est lui qui a créé toutes choses. Verset 16. « Car en lui ont été créées toutes les choses. » En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Voilà le sujet de notre espérance. C'est le Créateur de toutes choses. Il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. C'est lui qui donne un sens à toutes choses. Et lorsque nous regardons les choses au travers des lunettes que sont l'amour de Jésus, que sont la vie de Jésus, toutes les choses sont désormais différentes parce qu'elles sont clarifiées. Sans Jésus, nous avons une vie, une vue biaisée, une vision du monde faussée. Et cela nous conduit à des espérances trompeuses et fausses et chimériques. Verset 18, « Il est la tête du corps de l'Église, le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Il est devenu la tête de l'Église lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts. C'est là qu'il a formé, en communiquant son souffle, en régénérant les disciples, il a formé cette équipe. Qui devient l'Église lorsqu'il a soufflé sur eux après la résurrection. Voilà la tête de l'Église qui est son corps. Juste, la mission a commencé avec la Pentecôte, mais l'Église a commencé avec la résurrection de Jésus. Alléluia. Le premier-né d'entre les morts. S'il est le premier-né, c'est qu'il y aura aussi des gens qui ressusciteront d'entre les morts. Ça, vous le savez, mais ils ressusciteront en deux phases. Je reviendrai dans quelques minutes. Il est le premier-né et d'autres suivront et viendront après lui. Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a la totalité de la divinité. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2, il n'a pas regardé le fait d'être égal à Dieu comme une proie arrachée. Il avait la totalité de la divinité. Mais il n'a pas regardé. Mais pour des raisons du salut de l'humanité, il s'est dépouillé. Et il a pris une forme humaine, se rendant obéissant et obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Amen. Et là, j'aimerais souligner, il arrive aussi que pour atteindre certains objectifs que Dieu vous assigne, il vous demandera de temps en temps de vous dépouiller aussi et de céder certains de vos droits. Il avait cédé certains attributs. Il en avait quelques autres, mais il avait certains attributs qu'il avait cédés. Il avait cédé sa toute-puissance en acceptant de mourir. Il a cédé son immortalité. Il a cédé son omniprésence pour se renfermer dans un corps physique. Mais il a gardé sa sainteté. Il n'a jamais commis de péché. Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. C'est lui le sujet de notre espérance. Il est bon de regarder à lui, de méditer sur sa personne. Sinon, nous tomberons dans un mécanisme, un machinisme où nous prononçons seulement Jésus, 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 mais le contenu, l'essence de la personne, nous en sommes déjà détachés. Et il n'y a plus de vie de Jésus. C'est ce qui nous rendra faibles et sans espérance. Alors, le dernier point, l'espérance glorieuse en Christ, ce programme divin qui nous attend. La Bible en parle dans Colossiens, nous l'avons lu, comme un mystère caché de tous les âges, de tous les temps, et même de toutes les époques, mais révélé aux païens, révélé à ceux qui ont cru en Jésus. Ces choses sur notre vie future. Les peuples qui ont vécu, les saints de l'Ancien Testament, n'ont pas eu autant de lumière que nous en avons aujourd'hui. Il faut savoir, premièrement, que nous, en tant que chrétiens, nous n'attendons pas que le monde aille mieux. Nous n'attendons pas que nous devenions forcément toutes des nations développées ou que nous devenions tous riches au même moment. Tout le monde devient riche au même moment. Le monde va mieux au même moment. Toutes les nations sont développées au même moment. Plus de maladies sur la terre au même moment. Non, ça c'est faux, bien sûr. Même notre fort intérieur nous dit que ce n'est pas correct. Alors qu'attendons-nous, nous chrétiens? Tite, chapitre 2. Tite, chapitre 2, verset 11, 12. Nous dit, la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Voilà le clou. En attendant la bienheureuse espérance, voilà, nous attendons une bienheureuse espérance en tant que chrétiens. Quelle est cette espérance? La manifestation de la gloire du grand Dieu de notre Sauveur Jésus-Christ. La manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est ce que nous attendons. Nous attendons sa venue. Nous attendons son retour. Son retour. C'est ça l'attente chrétienne. L'attente d'être avec le Seigneur toujours. Et les passages sont nombreux. Les passages nous montrent que le Seigneur revient. Nous le disons, nous le chantons, nous le proclamons à tue-tête. Le Seigneur revient. Mais il revient comment ? Il revient en deux phases. La première phase, il reviendra dans les airs, au son de la trompette. J'avais parlé de ce passage, je le relis. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Les gens qui n'ont pas d'espérance s'affligent parce qu'ils ne savent pas quel est le programme divin. Ils sont tristes, ils ne savent pas. Mais nous ne devons pas être sans espérance. Continuons. Les versets suivants. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont morts. Et voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Paul a connu cette révélation et il nous déclare ceci. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. C'est-à-dire, à son époque, ils attendaient l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ ressusciteront. J'ai parlé d'un Corinthiens 15, lisez le chapitre. Lisez le chapitre. Ressusciteront, ils auront un corps glorieux. Tous ceux qui nous auront précédés ressusciteront. Ils auront un corps glorieux. Et ensuite, les vivants, nous serons tous enlevés avec eux. Ça, c'est la première phase. Le Seigneur enlevera les vivants et nous les rejoindrons dans les airs. N'est-ce pas un programme glorieux? N'est-ce pas une consolation? Et même ce paragraphe se termine par « Consolez-vous les uns les autres ». Aujourd'hui, une de nos églises, Parole éternelle de Lubumbashi, a été dans une grande douleur, parce qu'aujourd'hui, ce sera aussi l'enterrement des deux bien-aimés qui ont servi le Seigneur. J'ai suivi même un extrait du message d'un ancien. Ils sont morts dans un accident et ils crachaient du feu. C'était la parole de Dieu véritable qu'il était en train de prêcher, mais il prophétisait presque sur sa vie. Ils sont retournés auprès du Seigneur, brutalement arrachés à l'affection de l'Église tout entière. Double deuil, très dur à avaler, mais que nos bien-aimés soient consolés. Ils sont déjà auprès du Seigneur. Dès lors qu'ils avaient fermé les yeux sur la réalité terrestre, ils se sont retrouvés dans les bras de celui qu'ils ont servi. Bien-aimés, quelle est votre espérance? Le Seigneur revient chercher son Église et aller avec eux. Il ira avec nous dans son ciel de gloire, pas pour flotter. Certains pensent que dans le ciel, on va flotter. Dieu est plus sage que les hommes, mais plus intelligent. Si nous sommes capables de créer des choses, à combien plus forte raison le Seigneur est capable de créer et d'inventer, de multiplier les activités sans nombre. Nous irons dans sa présence. Dans un premier temps, nous nous présenterons tous, nous comparaîtrons devant son tribunal. Je n'ai plus le temps de lire le passage de Corinthiens chapitre 5, verset 10. Il nous dit que nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ et chacun rendra compte pour ses œuvres. Frère, je l'ai dit au début, toi qui bats encore ton épouse, tu rendras compte pour le don de Dieu. Si du moins tu y arrives, parce que ça c'est encore une question. Point d'interrogation. Est-ce que vraiment tu y arriveras? Nous rendrons compte pour notre vie. Nous rendrons compte notre marche vis-à-vis du Seigneur. Nous rendrons compte devant le tribunal de Christ. Ce ne sera pas un tribunal de condamnation, mais ce sera un tribunal de récompense où nous recevrons des couronnes pour les actes que le Seigneur va apprécier à sa juste valeur, les biens que nous aurons faits lors de notre passage en Christ, pas en dehors de Christ, parce que Christ prendra les siens. Nous rendrons compte et ensuite, nous irons au festin des noces de l'agneau. Ah, il y a un festin qui nous attend. Il y a un festin qui nous attend. Aujourd'hui, pour la petite histoire, aujourd'hui, nous ne savons plus assister aux fêtes des mariages. Parfois, bon, nous assistons quand même. Mais tellement les mariés entrent en retard, et tellement il faut attendre toute une cérémonie et puis beaucoup de choses, les danses et puis donner les cadeaux. On n'a plus le temps, on doit être au premier culte. On doit être au premier culte, donc on ne mange même plus. On n'a plus le temps de manger. Les mariés, bon, ne nous aident pas. Mais dans tous les cas, il y aura un festin. Les noces de l'agneau. Où le Seigneur sera avec son Église qu'il a préparée sans tache ni ride. Sans tache ni ride. Lisez Éphésiens chapitre 5 vers la fin, verset 25. Il s'est préparé une épouse. Gloire au Seigneur. La Bible nous en parle. Apocalypse 19, verset 9. Heureux ceux qui ont part aux noces, au festin des noces de l'agneau. Voilà un programme divin qui nous attend. Et ensuite quoi? Nous reviendrons avec le Seigneur sur la terre. Et il reviendra avec nous pour régner sur la terre pendant 1000 ans. Donc, gloire à Dieu pour ceux qui ont les mandatures humaines pendant 5 ans, 4 ans, 3 ans. Mais nous reviendrons avec le Seigneur pour 1000 ans. Voulez-vous faire partie de ce peuple-là qui reviendra pour régner avec le Seigneur pendant 1000 ans? Bon, je n'ai pas dit qu'aspirer au poste politique, c'est mauvais, hein? Si c'est votre vocation, faites-le, mais faites-le sagement et dans la crainte du Seigneur. C'est un milieu dangereux. C'est un milieu qui tue souvent la foi. Mais tenez bon, faites-le de bon cœur et l'Église va prier pour vous et nous vous soutiendrons. Amen. Nous reviendrons régner pour 1000 ans. Ici sur la terre, avec le Seigneur pour roi. Et j'aime bien dire, c'est un programme tellement merveilleux qu'il y aura sur la terre le Seigneur, il y aura les anges, il y aura les hommes qui ont été enlevés et ressuscités avec le corps de gloire, mais il y aura aussi des hommes d'une nature humaine. Ici sur la terre, il y aura beaucoup de types de personnes. Mais ce sera les chrétiens, ce sera ceux qui seront ressuscités à la première résurrection. Les autres, les non-croyants et les chrétiens qui se seront totalement refroidis dans leur foi, eux, ils attendront. Ils attendront le grand jugement. Je ne vous souhaite pas d'y être ou à ce grand jugement. Nous avons une espérance glorieuse. Après ces grands jugements et dans la suite, il n'y aura plus ces terres. Le Seigneur nous réserve des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Alléluia. Nous avons une espérance glorieuse. Et c'est cette espérance qui nourrit notre foi. Si nous avons la foi de croire que ce Dieu agit, c'est parce que nous avons une espérance. Nous sommes branchés. C'est cette espérance qui nourrit notre amour pour les frères. C'est à cause de cette espérance que nous aimons les frères. Parce que nous serons ensemble. C'est à cause de cette espérance que nous persévérons. C'est à cause de notre espérance que nous exprimons notre zèle pour servir le Seigneur. Pour tant soit peu attirer ceux qui n'ont pas d'espérance ou qui ont des espérances trompeuses. Baissons la tête et inclinons-nous dans la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci, toi le Dieu de toute espérance. Merci d'avoir parlé à nos cœurs. Merci de nous rappeler, Seigneur, que nous avons une espérance glorieuse en toi. À ce stade, j'aimerais faire rapidement un appel, plutôt quelques appels. Vous étiez entrés peut-être ici où que vous vous trouvez. Vous vous rendez compte que vous n'avez pas une espérance véritable. Vous vous sentez perdu. Jésus veut vous donner une espérance. Jésus veut être votre espérance. Vous vivez comme vous voulez. Vous vous trompez vous-même. Mais aujourd'hui, vous voulez dire, non, je ne veux plus me laisser tromper. Je veux Jésus. Je veux qu'il devienne, qu'il soit le sujet de mon espérance. Si vous êtes dans cette situation, veuillez lever rapidement votre main. Nous allons prier avec vous. Nous allons prier pour vous. Merci pour les mains qui se lèvent. Si vous pouvez vous lever aussi, vous pouvez vous lever, nous allons mieux vous identifier. Merci, merci. Nous avons un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Nous associons aussi, là où vous êtes, vous pouvez déjà commencer à dire, Seigneur, sois mon espérance, pardonne mes péchés, libère-moi de toute vie qui ne te glorifie pas. Vous qui avez levé les mains, levez-vous. Priez comme cela et dites, Seigneur, viens, entre dans ma vie. Et j'aimerais demander aussi s'il y a quelqu'un qui s'est senti perdu, sans espérance à cause d'une situation, peut-être même proche de se suicider, parce qu'il a perdu, je ne sais pas, un emploi. Il est dans une déception amoureuse. Il se sent perdu. Le goût de la vie n'y est plus. Lève-toi, nous allons prier. Notre espérance n'est pas simplement sur les choses de cette terre. Il y a plus que cela. Dieu connaît les projets de paix et non de malheur qu'il a pour toi. Ne te fais pas de mal. Il a pour toi des projets de paix et de bonheur. Merci pour tous ceux qui se lèvent dans les hangars. Merci. Nous allons prier pour vous. Et avec vous, Seigneur, nous te rendons grâce pour cette parole. Nous prions pour nos bien-aimés qui se sont tenus debout, soit pour ouvrir leur cœur à toi, l'espérance, ô Dieu de gloire, la véritable, le sauveur de l'humanité. Seigneur, accepte d'entrer dans leur vie, accepte de relever ceux qui se sentent faibles, ceux qui ont perdu le goût de la vie, redonne-leur la joie. Montre-leur que tu les aimes et que leur vie a du prix devant toi. Merci Seigneur de visiter et de donner une espérance, de fortifier l'espérance de chacun d'entre nous en sachant que tu reviens bientôt. Aide-nous à nous préparer. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci Jésus, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia.